Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Elles font partie des animaux les plus étudiés en laboratoire. Avec un cerveau d'à peine 1 mm cube, les abeilles sont de véritables concentrés d'intelligence, capables d'apprendre, de mémoriser, de compter ou encore de communiquer entre elles en utilisant un langage symbolique. Dans un instant, avec le biologiste Martin Giurfa, nous allons nous intéresser à l'organisation sociale et aux capacités cognitives hors du commun des abeilles. Une urgence de santé publique de portée internationale, c'est ainsi qu'a qualifié avant-hier, jeudi, l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de coronavirus apparue dans la ville de Wuhan en Chine. Que savent les scientifiques du virus? Comment pourrait évoluer la situation? Combien de temps pour développer un vaccin? Nous ferons le point dans la revue d'actu avec Sophie Becherel et Mathieu Novak. En deuxième heure, à 16h, nous nous interrogerons sur le passé et l'avenir de notre espèce avec le paléoanthropologue Pascal Pic. Et puis en toute fin d'émission, Françoise Sercollet, spécialiste des reptiles, nous racontera des histoires de serpents. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Tristan Gratalon et Guillaume Roux.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
Et on va s'approcher de la ruche et on enfume légèrement pour calmer les abeilles et on s'aperçoit délicatement et bien que c'est rempli d'abeilles. Il y a des nids à faux bourdon, c'est-à-dire que c'est une colonie apparemment qui n'est pas malade. Il y a du pollen, il y a du miel, pas de cellules royales à l'horizon, donc c'est pas une ruche qui a la prétention d'essaimer. Essaimer, c'est dire que la ruche est trop complète, quand il y a trop d'habitants, et bien d'elle-même, elle décide de se partager en deux, d'où l'essaimage.
Bonjour Martin Giurfa.
Bonjour.
Vous êtes biologiste au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Et vous êtes l'un des co-auteurs de l'ouvrage « Abeilles, une histoire intime avec l'humanité », une coédition CNRS Cherche Midi. Vous avez rédigé les chapitres plus particulièrement sur l'intelligence et l'organisation sociale des abeilles dans cet ouvrage. Alors nous étions là à l'instant, dans le Gers, avec Patrick Simon, un apiculteur, qui nous donnait un premier aperçu de l'organisation d'une ruche en bonne santé. Dans la ruche, comment se répartissent les rôles, Martin Giurfa?
Tout d'abord, je dirais que ces deux chapitres dont vous parlez ont été rédigés avec d'autres collègues du CNRS et de l'INRA qui ont contribué énormément à cette rédaction. Donc, par rapport à l'organisation de la vie sociale dans une ruche, il faut savoir qu'une ruche en bon état peut avoir 50 000 individus, voire plus. Et il y a une reine, à l'origine, qui est le seul individu fertile, qui va donc pondre des œufs et assurer donc la présence du couvain et de nouvelles générations. Nous avons par ailleurs des abeilles ouvrières. Ces ouvrières-là donc peuvent assumer différents rôles et ces rôles se répartissent selon l'âge. Donc les plus jeunes abeilles restent dans la ruche autour de la reine et s'occupent du couvain par exemple ou de la reine elle-même. Quand on devient plus âgé, on passe vers l'extérieur et on reste à l'entrée de la ruche et on devient gardien et on défend la colonie. Et quand on devient encore plus âgé, on va vers le monde extérieur butiner.
C'est-à-dire que les ouvrières changent de rôle, changent de métier tout au long de leur vie?
Absolument. C'est des individus donc qui ne se reproduisent pas. Comme je disais, seule la reine se reproduit. Et ceci est dû au fait que la reine produit une phéromone royale, dite royale, qui, entre autres capacités, a la qualité d'inhiber le développement des ovaires des ouvrières. Donc, c'est des individus stériles. Mmh. Et ces individus vont changer de tâche donc selon l'âge qu'ils vont avoir.
Mmh. Et puis aussi, en fonction des besoins de la colonie, on peut guider une abeille pour changer de rôle.
On peut tout à fait guider puisque c'est une société plastique. En ce sens-là, on va dire que c'est une société entre guillemets intelligente parce que si à un moment donné, il y a pour X raisons une génération qui manque, alors que la jeune qui devrait assurer des tâches dans la ruche est en train de le faire, elle pourrait changer de rôle et assumer le rôle de celle qui manque.
Et comment on fait pour demander à une abeille de changer de fonction?
On peut augmenter les stimuli qui déclenchent ce changement. Ouais. Par exemple, si vous avez trop d'entrées de nectar ou de pollen et que les butineuses ne sont pas suffisantes donc à faire entrer tout ceci, ou que par exemple celles qui reçoivent ces produits ne sont pas suffisantes pour assurer donc la réception, il y aura donc un turnover pour faire donc remplir les besoins et assurer donc un changement de rôle pour que toute tâche soit bien assurée et remplie.
Alors il y a, vous l'avez dit, la reine hein, pour la reproduction, et pas qu'un peu puisque 2500 œufs par jour.
Phénoménal. Ouais. Oui, tout à fait. Cette reine donc a été fécondée lors d'un vol nuptial qui a lieu une fois. Donc cette reine va partir dans la nature. Elle sera suivie par les bourdons, les mâles. On n'a pas parlé des bourdons d'ailleurs. Donc ces mâles-là qui sont juste pour cette période de l'année, c'est-à-dire le moment de la reproduction, puisque par la suite, n'ayant plus de rôle, destin cruel des mâles, effectivement, ils seront virés de la ruche une fois la reproduction assurée. Et comme ils ne sont pas capables d'assurer leur propre survie, ils vont périr dans la nature.
Ah oui, les faux bourdons ne sont pas indispensables, ou en tout cas que très momentanément.
Ils sont importants pour la reproduction quand même. Les milliers d'œufs dont vous avez parlé ne seraient pas là, donc en partie, puisqu'on peut produire des œufs non fécondés. Mais ils sont effectivement juste là pour la reproduction sexuelle. Donc pour revenir à ce que vous disiez, donc il y a le vol nuptial, donc la reine va être fécondée par plusieurs mâles lors de ce vol nuptial. Elle rentre dans la ruche et elle va commencer donc effectivement, entre autres choses, à assurer la ponte. Il faut savoir que ces œufs-là peuvent être fécondés par un spermatozoïde, oui ou non. Il y a une spermatèque, il y a le passage de l'œuf, et il y a une sorte de porte de contrôle qui va décider, donc, où la reine va dire cet œuf-là sera fécondé ou non. Si l'œuf n'est pas fécondé, on donnera lieu à un faux bourdon.
C'est ça. En fait, les mâles naissent si l'œuf n'est pas fécondé.
Exactement.
Ils n'ont qu'un demi-génome, alors,
les
mâles.
Bon,
alors, l'organisation sociale de la ruche est absolument fascinante. Hein. Ces abeilles vivent en groupe de plusieurs milliers d'individus. Elles collaborent pour la survie de la colonie. Et vous dites dans votre ouvrage, Martin Gurfa, que l'organisation sociale des abeilles représente probablement l'un des systèmes de société les plus complexes du règne animal.
Absolument. On peut effectivement énoncer ceci dans la mesure où il y a des mécanismes de communication extrêmement sophistiqués qu'on ne trouve pas par ailleurs. Mmh. Logiquement, il y a des mécanismes de communication olfactive qu'on trouve dans beaucoup d'espèces, voire donc des phéromones. Donc les phéromones sont des substances chimiques que beaucoup d'espèces animales libèrent dans la nature et qui agissent comme des signaux spécifiques avec un message donné. Territorialité, défense, agression, tout ceci peut être véhiculé par des odeurs que les animaux libèrent et qui sont des messages spécifiques pour des membres de leur propre espèce. Ceci, logiquement, existe et c'est très élaboré chez les abeilles. Mais les abeilles ont par ailleurs, par exemple, une danse qu'on ne trouve pas par ailleurs. C'est-à-dire des mouvements stéréotypés qu'elles font au sein de la ruche. Ça représente une sorte de forme de 8 sur les parois verticales de la ruche et dans le noir. Et cette danse-là, par ses caractéristiques, par sa forme, par son intensité, a la capacité d'informer à d'autres abeilles qui suivent cette danse, donc qui lisent cette danse, la distance et la direction des sources alimentaires qu'il faut exploiter.
Alors, cette danse n'a absolument rien d'anecdotique, hein, puisque le physiologiste Carl von Fritsch a obtenu en 1973 le prix Nobel de physiologie et de médecine parce qu'il avait décrypté cette danse de communication des abeilles.
D'ailleurs, justement, le comité Nobel lui octroie le prix et affirme pour le décodage du premier langage non humain connu.
Oui. C'est vraiment un langage?
Strictement parlant, ce n'est pas un langage. Un collègue linguiste, évidemment, rejetterait cette idée puisque il n'y a pas, par exemple, des phrases avec une structure grammaticale, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, etc. C'est ce qu'on appelle un langage iconique, comme par exemple pointer du doigt et indiquer vers où on va. C'est l'équivalent de ceci, c'est-à-dire les abeilles sont en train de pointer du doigt, mais il y a un peu plus que ça parce que non seulement on pointe du doigt et on donne les repères de direction à suivre, mais on dit aussi la distance à suivre. Mais évidemment, c'est pas un langage strictement parlé.
Mais alors comment elles donnent la distance en dansant, les abeilles?
Par un code très précis de l'intensité de cette danse. Vous savez, l'abeille peut danser, peut faire la figure du 8, qui est typique de cette danse-là, plus ou moins rapidement. Et logiquement, parce qu'il y a une logique biologique dans tout ceci, quand elle vient de sources alimentaires qui sont très éloignées et qui impliquent donc de consommer beaucoup d'énergie et de temps pour y aller, elle va danser plus lentement. Donc elle n'est pas si motivée que ça. Bon, il y a quelque chose qui est profitable, mais bon, donc on danse un petit peu plus lentement. compte, au contraire, on vient d'une source alimentaire qui est très proche, qui demande très peu d'efforts pour y aller. On va danser extrêmement vite, très rapidement, on va moduler l'intensité et on va dire donc aux autres, c'est prêt par cette intensité de la danse. Or, ce qui est important là, c'est que c'est un véritable code. Chaque abeille va suivre le même code d'intensité pour indiquer une distance donnée. Sinon, si ça changerait, ça permettrait pas de communiquer.
Et donc, ces danses servent à communiquer au reste de la ruche les sources de nourriture, l'endroit où elles se trouvent.
Exactement. Donc, c'est un code véritable qui est partagé par toutes les abeilles de l'espèce, non seulement d'une ruche, et qui donc permet d'indiquer distance et direction de la source à exploiter.
Elles sont innées ou elles sont apprises, ces danses ?
Elles sont innées. Ceci n'exclut pas que dans le contexte des danses, il y ait de l'apprentissage. Je veux dire par là que, par exemple, des abeilles qui reviennent d'une source alimentaire, une source florale, ont des odeurs florales imprégnées dans leur corps. Ceux qui suivent donc les danses, les autres abeilles qui touchent, qui essayent de rester en contact avec celles qui dansent, vont percevoir cette odeur. Par ailleurs, l'abeille qui danse peut s'arrêter constamment et pour stimuler celles qui la suivent, peut régurgiter un petit peu du sucre, du nectar qu'elle a dans le jabot. Et elle crée par là cette association entre odeur particulière qu'elle a et sucre, et elle génère un apprentissage olfactif dans le contexte de la danse.
Oui, il y a une part d'apprentissage, puisque vous racontez dans votre ouvrage une expérience étonnante où l'on a pris deux espèces d'abeilles différentes qui avaient une danse légèrement différente. On les a regroupées.
Tout à fait.
Et elles ont trouvé une sorte de terrain d'entente, de danse intermédiaire pour que les deux communautés d'abeilles puissent communiquer entre elles. C'est fascinant.
Exactement. C'est justement une expérience qui est faite en Chine. Dans l'institut où j'ai la chance aussi de travailler, puisque je suis professeur invité à l'université de Fuzhou, à Fujian University. Et donc, effectivement, ils ont essayé de faire coexister dans une même colonie des abeilles européennes et des abeilles chinoises. Et effectivement, elles ont toutes les deux la danse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'évolution a fait que le code X veut dire une distance pour l'abeille européenne, alors que ce même code pour l'abeille chinoise indique une autre distance. Donc, a priori, quand elles se lisent réciproquement, ça devrait induire à erreur. Et ce qui est le cas dans un premier temps. Mais à force de coexister, les abeilles chinoises arrivent à s'adapter plus rapidement vers le code des Européens. Elles arrivent et elles corrigent leurs erreurs. Les Européennes ont un petit peu plus de mal, mais elles vont arriver quand même. Mais les Chinois sont beaucoup plus rapides.
Alors, il y a aussi des mécanismes pour prendre des décisions collectivement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est une démocratie. Elles peuvent voter et la majorité l'emporte. Comment ça se passe exactement ?
Il y a, si vous voulez, le principe du quorum qui va exister dans ceci. Imaginez par exemple que vous venez d'une source alimentaire qui est extrêmement positive, extrêmement attirante. Vous allez danser avec une grande intensité. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient d'une autre source. Il est convaincu qu'elle est bonne, mais cette abeille va déterminer son intensité en fonction de son vécu. Elle ne va pas tricher, elle ne va pas mentir. Donc, il y aura plusieurs danses de différentes abeilles dans la colonie qui vont être en compétition, mais en fonction de leur intensité, les abeilles, donc effectivement, vont décider collectivement où aller. Ils vont comparer les intensités de ces danses, puisque les intensités sont une lecture possible de la qualité de ces différentes sources alimentaires. Il y a un quorum qui va émerger et qui va dire où on va.
Toutes les espèces d'abeilles vivent-elles en colonie ou est-ce qu'il y a des espèces où les individus sont solitaires ?
Ah, il y a des abeilles solitaires, c'est-à-dire des abeilles qui vont faire leur nid dans des petits trous. D'ailleurs, je crois qu'il y a une initiative extrêmement importante et extrêmement bonne parce qu'on parle beaucoup des abeilles domestiques et c'est très bien et très important, mais il ne faut pas oublier que toutes ces abeilles donc, sauvages qui habitent dans la nature sont solitaires et elles ont aussi besoin de protection. Donc, il y a ce qu'on appelle des projets pour faire des hôtels à abeilles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Oui.
Donc, on peut faire des bois avec des petits trous pour qu'elles nidifient là-dedans, etc. Et on assure de cette façon leur survie.
Et ça a du sens alors de faire ça ?
Absolument. Oui. Absolument, parce que toute abeille, non seulement les abeilles domestiques, sont en train de subir à l'heure actuelle des menaces extrêmement importantes contre leur survie. Et donc, toute aide qu'on pourra fournir à ces abeilles, domestiques ou solitaire, donc sera bienvenue.
On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans cette émission. Quand est-ce que les abeilles sont apparues sur Terre au cours de l'évolution ?
Donc les premières traces connues, donc qui sont justement des registres d'abeilles dans de l'ambre fossile, viennent autour de 120-130 millions d'années. donc sont assez anciennes. Effectivement, on ne pourra pas dire si c'est des abeilles identiques en termes de mode de vie, comportement à celles qu'on a aujourd'hui. C'est un animal qui est fossilisé dans l'ambre, on le voit extérieurement, donc effectivement il ressemble à un hyménoptère, c'est le groupe des abeilles. On sait que ça ressemble à une abeille, mais on ne peut pas effectivement faire d'a priori sur quel type de système de vie ou d'organisation sociale cet animal avait.
Nous avons eu un aperçu de l'intelligence collective des abeilles avec vous, mais ces insectes ont également des capacités cognitives individuelles absolument remarquables. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité Martin Jurfa, du vent dans les synapses et dans les ruches cet après-midi sur France Inter.
Bienvenue chez Mielex. En bonnes petites abeilles que vous êtes, vous avez travaillé dur. La fabrication du miel débute lorsque nos vaillants Apollon du pollen rapportent le nectar à la ruche, où notre formule secrète sera automatiquement corrigée au fur et à mesure du processus de fabrication, tant au niveau de la couleur que des bulles d'air, jusqu'à obtention de ce succulent sirop au reflet d'or liquide connu sous le nom de...
Miel!
Et vous serez heureux d'apprendre que depuis 27 millions d'années que notre espèce existe, aucune abeille n'a pris un seul jour de vacances. Ouh!
Mais vous croyez pas que vous allez nous tuer à la tâche?
On va essayer en tout cas.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, mégare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. Vache d'abeille, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. Zzz, 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 zzz. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
C'était Bourville, bien sûr, qui chantait Les abeilles.
France Inter. Du vent dans les synapses.
La voûte de branches parsemées de fleurs résonne du vol rapide et sûr des abeilles géantes. Après une heure, le sentier plonge dans le vide d'une vallée profonde. Dans la vallée, sept gourous ou pérengués sont renommés pour leur vigueur et leur courage dans la lutte pour la récolte du miel. Au pied de la falaise, un feu de brindilles et d'herbes sèches est allumé. La fumée s'élève lentement. Des milliers d'abeilles attaquent toute forme de vie qui se trouve à proximité. Cette nuit, les esprits se sont adressés à Bolokhesher. Recouvert de sacs en plastique et tissus, chacun lutte pour survivre à cette première attaque. Pelotonnés autour du feu pour se protéger des dards, nous nous perdons dans la fumée pour éviter les nombreuses piqûres. Pieds et mains nus sur l'échelle de bambou, le perengue manie à bout de bras les longues perches suspendues entre ciel et terre. Les ordres fusent, le panier descend, se vide, remonte, reçoit une nouvelle masse gonflée de liquide doré. Les hommes dégoulinent de miel comme s'il en pleuvait.
Périlleuse récolte de miel produit par une abeille géante, racontée par Éric Tourneret. Nous étions au Népal. Notre invité, Martin Jurfa, est l'un des co-auteurs d'un ouvrage intitulé « Abeilles, une histoire intime avec l'humanité ». Le lien entre les hommes et les abeilles se retrouve dans beaucoup de cultures et à toutes les époques, Martin Jurfa.
Exactement, depuis le néolithique, effectivement, on a des connaissances par rapport à cette coexistence entre hommes et abeilles qui montrent jusqu'à quel point cette association est de longue durée.
C'est-à-dire qu'on retrouve des vestiges qui montrent l'intérêt des chasseurs-cueilleurs. Alors, pour la cire d'abeille, on en est sûr, parce qu'on en retrouve au fond de poteries qui datent de moins 40 000 ans.
C'est ça. Ouais. Effectivement.
C'est une histoire ancienne.
Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'abeille serait une sorte, je dirais, de miroir dans lequel peut se refléter l'humanité. C'est-à-dire, elle va refléter quel est le type de relation que nous avons entamé ou établi avec elle. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, le miroir va refléter une image forcément positive. Parce que il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à l'environnement dans lequel elle vit et comment on la traite.
On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. De quand date la domestication des abeilles par l'homme?
C'est difficile de répondre à cette question, mais parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a eu des traces de cire à partir du néolithique, mais on pourrait se situer dans un cadre de situation comme celle que vous avez décrit de l'ami Éric Tourneret, que je connais bien d'ailleurs, où il n'y a pas de domestication. C'est des chasseurs-cueilleurs qui montent sur les falaises. C'est des abeilles extrêmement agressives, les abeilles géantes de l'Asie. Et là, il n'y a pas de domestication. On va simplement, quelque part, essayer de tirer des produits de la ruche.
Cet animal, quoi qu'il en soit, a une image très positive dans l'imaginaire des humains. Ça se vérifie dans toutes les cultures.
Dans toutes les cultures.
C'est absolument assez étonnant.
Parce qu'effectivement, l'abeille est considérée comme un élément de travail, comme une culture de travail. Effectivement, l'abeille butine. Et surtout, c'est un travail qui n'est pas individuel, mais c'est un travail pour la société. Je pense que ces aspects-là sont extrêmement importants pour avoir cette image d'exemple, parce que c'est ce qu'on voudrait tous, quelque part, nous, membres d'une société. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'abeille est devenue un modèle, comme on dit en science, c'est-à-dire un objet d'étude en soi, pour comprendre beaucoup de questions ou répondre à beaucoup de questions dans différentes disciplines. Que ce soit au niveau de l'environnement, par exemple au niveau d'écotoxicologie, pratiques agricoles, etc. Ou que ce soit par exemple en neurosciences pures et dures, où par exemple on va exploiter leur capacité d'apprendre et mémoriser pour comprendre comment s'organise cette capacité d'apprentissage au niveau du cerveau.
C'est vrai qu'elles ont une capacité à apprendre assez phénoménale, notamment leur système de navigation, la façon dont elles s'orientent dans l'espace. Là-dessus, il y a des recherches très intéressantes qui sont menées.
Absolument, elles sont fabuleuses, et surtout qu'il y a cette caractéristique assez unique par rapport à beaucoup d'insectes, c'est que l'abeille doit constamment, contrairement à d'autres insectes, revenir à une place fixe dans l'espace, qui est la ruche. Donc elle doit faire plusieurs kilomètres, il faut imaginer ce que ceci représente pour la taille d'une petite abeille, et ne pas se perdre et revenir toujours à la ruche.
Alors comment font-elles?
Donc elles ont plusieurs types de boussoles qu'elles utilisent. Il y a évidemment des boussoles solaires, donc elles se repèrent par rapport à la position du soleil. Elles ont aussi des marques de terrain, des repères particuliers qu'elles vont mémoriser. Elles peuvent aussi utiliser la lumière polarisée qui se trouve dans le ciel, invisible à nos yeux, mais visible pour leur système visuel.
C'est-à-dire que si le soleil est masqué par les nuages, elles ont encore la possibilité d'estimer la position du soleil grâce à la polarisation de la lumière.
Puisque cette polarisation de la lumière est relative à la position du soleil. Ouais. Exactement.
Elles ont une capacité à estimer les distances. Comment font-elles?
Elles utilisent ce qu'on appelle le flux optique. Ça veut dire que quand vous marchez, par exemple, vous voyez défiler les objets dans votre champ visuel. Et donc, elles utilisent ce défilé d'images lors de leur vol vers la source alimentaire. Elles vont se dire, donc, pour aller vers cet endroit-là, je dois voir donc une certaine quantité de flux optique passer et je m'arrête où je trouve la valeur désirée. Donc, en voyant passer les images, ça me donne une mesure donc de la distance à parcourir.
Ça, on s'en est aperçu avec des expériences assez amusantes.
Tout à fait. C'est un collègue australien, entre autres, qui a fait ça, Mandiam Srinivasan, donc, qui a fait voler des abeilles dans des tunnels. Et dans les parois latérales de ces tunnels, donc, il avait des patterns qui pouvaient bouger soit dans le sens de l'abeille, soit dans le sens contraire.
C'est-à-dire des silhouettes, quand vous dites des patterns
qu'il y avait sur les... c'est-à-dire des lignes verticales, blanches et noires, tout simplement. Donc l'abeille voit le défilé d'images, puisque les lignes sont verticales et elles volent dans une direction opposée. Et donc elles voient défiler ces barres blanches et noires. Et effectivement, si on les fait bouger avec l'abeille, évidemment, on a l'impression qu'elle bouge moins vite. Ouais. Et si on les fait bouger dans le sens contraire, effectivement, on a l'impression qu'elle bouge plus vite. Et avec ça, on peut tromper l'abeille par rapport à la distance qu'elle a parcourue.
On peut lui faire croire qu'elle a parcouru plus de distance.
Ou moins de distance.
Ou moins de distance.
Exactement.
Quelle distance elle peut parcourir, cette abeille, quand on ne la perturbe pas avec ses expériences?
Donc, typiquement, on sait qu'une abeille peut aller jusqu'à entre 6 et 10 kilomètres comme distance maximale. Et j'insiste, il faut donc se mettre à la place de l'échelle d'une abeille pour comprendre ce que ceci veut dire en termes énergétiques, en termes de maîtrise de l'espace.
Et qu'est-ce qu'on en sait de leur mémoire, de leur capacité à mémoriser la position des fleurs?
Donc, la mémoire spatiale est bien connue. C'est pas la mémoire qui est plus explorée. Mais effectivement, dans la mesure où les abeilles peuvent revenir au cours de plusieurs jours et tant que les floraisons sont présentes, donc toujours au même endroit, ça montre des mémoires à long terme extrêmement efficaces qui peuvent durer plusieurs jours et qui peuvent durer effectivement toute la vie utile d'une butineuse qui est de 2 semaines, à 3 semaines.
Elles sont souvent fidèles à la même espèce de fleurs.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la constance florale faite qui avait été déjà observé par Aristote, qui avait bien vu que, par exemple, une abeille dans un vol de butinage ne change pas de la rose à la marguerite ou de la marguerite au tournesol, mais qu'elle reste toujours fidèle sur la même espèce tant que cette espèce est profitable en termes de l'offre de nectar et pollen. Et là, l'explication pour ceci, c'est qu'elle a mémorisé les traits typiques de la fleur exploitée. Ouais. C'est pour ça qu'elle reste fidèle.
Alors, on est déjà assez impressionné par ses capacités cognitives pour ce petit insecte, mais on n'est pas au bout de nos surprises, puisque les chercheurs sont allés beaucoup plus loin et ils se sont rendus compte que ces abeilles étaient capables de conceptualiser, de réaliser certaines opérations mathématiques, de se faire une représentation de ce qu'était le zéro. Enfin, il y a de nombreuses expériences qui sont absolument bluffantes.
Absolument, parce que ce dont on a parlé, c'est des apprentissages qu'on pourrait traiter de simples. Apprendre que telle couleur est associée à une récompense, qu'une autre ne l'est pas, que par exemple une odeur est positive, une autre est négative, ça reste des associations, des liens simples entre un objet et sa conséquence. Ce dont vous parlez, c'est des apprentissages de haut niveau qui, jusqu'à peu de temps, étaient considérés comme une prérogative de l'homme et des primates. Donc, c'est des travaux qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on a démarré la fin des années 90 avec ce genre de questionnement qui était, est-ce que les abeilles sont capables de traitements cognitifs de haut niveau? Et effectivement, on a démontré, et c'était une des premières démonstrations, qu'elles étaient capables de maîtriser des concepts, c'est-à-dire des règles, résoudre des problèmes en fonction de règles, comme par exemple, choisis ce que je te montre, indépendamment de ce que je te montre. Peu importe ce que je vais te montrer, je vais changer tout le temps les objets que je te montre et par la suite, je vais te donner un choix. Et il faut que tu comprennes que ce n'est pas la couleur, que ce n'est pas l'odeur, que ce n'est pas la forme d'objet, mais que tu dois toujours choisir l'objet que j'ai montré précédemment, même s'il est en train de changer tout le temps.
Ah oui, c'est des règles complexes et on n'est même pas sûr que nous-mêmes, on aurait compris la règle
d'ailleurs,
du jeu.
D'ailleurs, une question typique, c'est à partir de quel âge un enfant peut arriver à maîtriser cette règle-là. Ouais. Et donc, elle maîtrise cette règle-là. Quand on a montré ceci, ce qui a été un changement de paradigme par rapport à comment on considère un insecte et ses capacités cognitives, on est parti vers des explorations plus poussées, d'autres types de concepts. Et effectivement, une de mes collègues, Aurora Vargas, notamment avec un collègue australien, un grand ami, Adrian Dyer, se sont aussi lancés dans l'exploration des concepts numériques, c'est ce dont vous avez parlé.
C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des opérations mathématiques?
Exactement. Donc, à partir d'utiliser ce type de règles, c'est-à-dire ou ce type de principe expérimental, ils ont pu montrer que les abeilles pouvaient choisir en fonction de faire toujours plus 1 ou moins 1, par exemple, pour arriver à obtenir une récompense alimentaire. Ici, par exemple, on présentait une image avec 3 ou 4 objets. Ça varie tout le temps. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Et par la suite, on présente 2 autres objets. Et comme les images changent tout le temps et les nombres changent tout le temps, on arrive à montrer que peu importe le nom, l'opération se fait systématiquement pour faire l'accès ou pour obtenir l'accès à la récompense alimentaire.
Qu'est-ce qu'on sait du cerveau des abeilles? Parce que de telles prouesses laissent quand même songeur. L'animal est tout petit, son cerveau fait moins d'un millimètre cube. Comment fonctionne-t-il pour...
C'est là où la question devient intéressante, non seulement pour le neuroscientifique, qui va se dire quel est le nombre minimum de neurones, par exemple, pour assurer une telle tâche. Parce que vous avez dit petit cerveau, effectivement, il y a moins d'un million de neurones là-dedans. Spécifiquement, 950 000 à peu près. Chez nous, il y a 100 milliards de neurones. Il faut se rendre compte de la différence. Hein. 100 milliards contre moins d'un million. Et pourtant, elles arrivent à faire ceci. Je disais tout à l'heure, on croyait que ces traitements étaient une prérogative des primates, de l'homme. Il faut changer cette opinion. Il faut donc comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un cortex préfrontal dans le cerveau humain pour faire ceci. Et donc, quels sont les circuits alors qui sous-tendent ces capacités dans un petit cerveau? C'est un grand pari à répondre. Mmh. Mais il y a une perspective différente par rapport aussi à quelle est notre position dans la nature par rapport aux tâches cognitives. Mmh. Sommes-nous finalement si supérieurs par rapport au moins à ces tâches-là? Certainement non.
Et dans votre livre, vous allez même encore plus loin, puisque vous vous posez la question, les abeilles sont-elles dotées d'une conscience? La question se pose vraiment aujourd'hui?
La question se pose certainement, et disons-le aussi clairement, non seulement pour l'abeille, mais pour la plupart des espèces animales, pour les animaux. Donc en général, bon effectivement, c'est peut-être plus frappant de la poser pour un insecte, mais c'est une problématique très très actuelle. J'ai pu faire partie d'un groupe de recherche monté par l'INRA il y a un an et demi, deux, pratiquement, intégré par chercheurs de tous les domaines, pour essayer de répondre à la question de la conscience animale. C'est un sujet extrêmement débattu parce que imaginez que si effectivement on arrive à la conclusion que les animaux ont une conscience de soi, on doit changer radicalement nos pratiques et nos regards envers eux. C'est une question extrêmement importante. Par rapport aux abeilles, effectivement, donc il y a des expériences qui sont faites, qui essayent de montrer, au vu de ces capacités cognitives fabuleuses qu'on a montrées, est-ce que l'abeille a conscience de soi? Et effectivement, à l'heure actuelle, on recherche, on a des tests spécifiques en psychologie cognitive, où un animal va répondre comme ci ou comme ça, qui permettent plus ou moins d'avoir un abord et de commencer à répondre à cette question-là.
En l'occurrence, pour une abeille?
En l'occurrence, par exemple, ce qu'on appelle la métacognition. Ouais. La métacognition, c'est par exemple, si je vous pose la question suivante, quelle est la probabilité que vous me disiez le résultat du match de la Coupe du Monde finale, hein, Coupe du Monde 1978 entre l'Argentine et Hollande.
La probabilité est assez nulle parce que je suis pas très féru
parfait.
En foot.
Mais là, vous avez fait de la métacognition, c'est-à-dire vous avez évalué, ok, votre niveau de connaissance et vous avez rendu cette perception de votre connaissance. Un animal peut faire ceci si on lui pose un problème, soit facile, soit difficile. Et on lui laisse la possibilité de quitter si le choix est difficile, si la situation est difficile.
Et donc, quelle question on pose à l'abeille? Parce que pour les résultats de matchs de foot, a priori... Elle est
par exemple, on peut lui poser un problème conceptuel comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, en rendant par exemple les images très difficiles à discriminer. Et à ce moment-là, on lui dit « tu peux y aller ou tu peux quitter et ne pas faire le choix ». Comme ça, tu ne seras pas pénalisé. Et les abeilles décident, dans des situations particulièrement difficiles, de quitter la situation de choix. Ce qui voudrait dire, c'est que quelque part, elles sont capables de faire ce que vous avez fait. Évaluer leurs connaissances et décider de quitter le choix, puisqu'elles ne sont pas sûres.
Ah, j'ai peut-être le QI d'une abeille, finalement. Sait-on jamais.
Ce qui n'est pas mauvais.
Ah bah oui, bah là, je serais plutôt flatté avec tout ce que vous nous avez raconté. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de ces abeilles. Hein. Régulièrement, des apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, comme cet apiculteur breton désemparé qui a mis en ligne cette vidéo sur Internet.
Là, on a à peu près une vingtaine de ruches sur le rucher. Et c'est extraordinaire, il n'y a plus aucune de vivante. Il y a du miel partout. C'est rempli, ça dégouline de miel. Vous voyez, je suis au quatrième cadre. Je suis quasiment au milieu. La ruche est pleine à craquer de miel. Le couvain, on voit qu'il y avait un redémarrage et tout, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien du tout. La ruche est vide. Elle est complètement abandonnée. Tout est mort. Tout est intoxiqué. Cette année, on va réussir à faire du miel, c'est sûr, mais comment? Je ne sais pas. Ça fait 10 ans que je fais de l'apiculture. Ça fait 10 ans qu'on supporte ça. Les abeilles ne sont pas malades à l'heure actuelle. Elles sont intoxiquées.
Les abeilles sont intoxiquées, nous dit cet apiculteur breton. Comment expliquer l'effondrement des colonies d'abeilles, Martin Jurfa?
Donc je disais tout à l'heure que les abeilles sont une sorte de miroir dans lequel on se reflète. Et effectivement, l'image qu'on voit aujourd'hui n'est pas belle. Parce qu'effectivement, on est en train d'assister à cette disparition massive de colonies. Elle ne s'explique pas par un seul facteur, mais il y a une multiplicité de facteurs dont nous sommes responsables qui convergent pour arriver à ce résultat. Donc, il y a d'un côté les pesticides. Et le problème des pesticides, c'est que donc la France fait bonne route en essayant d'interdire ou en interdisant spécifiquement. Le problème, c'est que quand on arrive à interdire X ou Y, il y a Z qui vient par derrière. Donc, c'est une bataille qu'il faut donner. Personnellement, moi, je suis très impliqué. Ce que je dis m'engage personnellement, évidemment, on n'engage pas mon laboratoire, etc., mais c'est une position personnelle. Je suis absolument contre cette utilisation et je prêche ou je suis absolument pour des pratiques environnementales responsables. Ouais. Je disais, il y a les pesticides d'un côté, mais il y a des maladies qui ont voyagé par la globalisation et l'ouverture, par exemple. Il y a l'arrivée de nouveaux prédateurs, comme les frelons asiatiques. Et tous ces facteurs convergent et se potentient, comme l'ont montré déjà plusieurs chercheurs, y compris en France, donc comme Cédric Allot à l'INRA, qui ont montré, par exemple, que ces facteurs convergent et vont donc avoir un effet beaucoup plus important que si on les additionne tout seul, quelque part. C'est-à-dire l'effet attendu de cette addition de chaque facteur tout seul. Non, on a plus que ça quand ils convergent.
Est-ce que l'on observe une disparition des abeilles partout dans le monde, ou il y a des régions plus touchées que d'autres?
Je pense que c'est plutôt les régions plus industrielles qui sont particulièrement touchées. Donc effectivement, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de culture agricole intensive ou monoculture, etc. On va voir moins ceci parce qu'on aura aussi moins de pesticides. Ça, c'est un autre problème. Quelles sont les pratiques agricoles que nous appliquons? Et je ne parle pas maintenant des pesticides, mais de la biodiversité. Effectivement, si nous supprimons la biodiversité parce qu'on ne fait que des champs et des champs, des kilomètres de monoculture, culture, ce n'est pas bon pour les abeilles, comme ça serait pas bon pour vous de manger toujours la même chose. Donc, et de supprimer toutes les entrées de vitamines, etc., qui viendraient avec.
On présente souvent la disparition des abeilles comme une catastrophe qui entraînerait assez rapidement notre disparition à nous. Quelle serait effectivement la disparition des abeilles?
C'est difficile à prédire, mais déjà toute disparition d'une abeille ou de n'importe quel autre organisme est dramatique. Donc, il faut un changement de pratique, il faut un changement d'attitude. Moi, je suis un neuroscientifique, si vous voulez. Dans un premier temps, et il y a quelques années, j'avoue que j'étais loin de ces préoccupations. Mais travaillant avec ces abeilles, et comme ces abeilles sont une fenêtre au monde, un reflet, comme je dis, de ce que nous sommes, je ne peux que devenir conscient par rapport à ce qui est en train de se passer autour de nous, et avoir une position très très claire et très engagée par rapport à cette problématique.
Merci Martin Jurfa. Je rappelle le titre de votre ouvrage auquel vous avez participé. Il y a beaucoup de co-auteurs. Il a été rédigé sous la direction de Martine Régerte, avec une préface de notre ami Jean-Claude Amezen, publié chez CNRS Éditions et Cherche Midi. Abeilles, une histoire intime avec l'humanité. Un grand merci à vous.
Un grand merci à vous.
Que savent les scientifiques du coronavirus apparu dans la ville de Wuhan, en Chine? Comment pourrait évoluer la situation? On fait le point dans un instant avec Mathieu Novak et Sophie Becherel.
thing I needed was reason to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I started at the beginning. All that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I with you, I can't complete any big or small mission.
Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave me blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there were two.
Then There Were Two, c'était Mark Ronson et Anderson .Paak.
Du vent dans les synapses, Daniel Fievé.
Une large place de la revue d'actu de la semaine sera consacrée au coronavirus et à la course contre la montre engagée par les scientifiques. Autour de la table pour en parler, Sophie Bécherel de France Inter et Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Les habitants de la ville de Wuhan, en Chine, mis en quarantaine suite à l'émergence du coronavirus. Alors les habitants confinés chez eux chantent à leurs fenêtres et s'interpellent pour se donner du courage. Avant-hier, jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. À ce jour, la Chine surtout est concernée, mais déjà des cas ont été recensés un peu partout dans le monde. On le suit au fil de l'actualité. Sophie Bécherel, qu'est-ce que l'on sait exactement de ce virus actuellement ?
Alors c'est un coronavirus, ce qui signifie qu'il a une forme de couronne. Et dans cette famille, certains infectent les animaux, d'autres les hommes. Certains sont bénins, d'autres agressifs. Et c'est en 2002 avec le SRAS qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir justement des coronavirus extrêmement agressifs. Puisque alors qu'un virus peut toucher tout le monde et finalement n'avoir une atteinte sévère qu'auprès des personnes immunodéprimées ou des très jeunes enfants, eh bien là, avec cette épidémie du SRAS, des individus en bonne santé sont morts. À l'époque, rappelons 9000 personnes contaminées et 800 morts. Il y a un autre coronavirus qu'on a découvert en 2012, qui est passé d'ailleurs du dromadaire à l'homme en Arabie, sans qu'on sache pourquoi. Et donc aujourd'hui, ce 2019-nCoV qui est apparu à Wuhan, dans cette ville du centre de la Chine. Alors, on ne sait pas en fait quelle espèce animale a contaminé les humains. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'a priori, il y a un ancêtre commun qui serait la chauve-souris, mais entre la chauve-souris et puis nous les hommes, il y aurait un animal intermédiaire. Et on a toujours pas trouvé lequel. On suspecte en tout cas que cet animal se trouvait dans le marché de la ville parce que les premiers cas contaminés avaient tous ce point commun qu'ils avaient travaillé dans le marché. Mais il y a pas de certitude à 100%.
Il y a encore une incertitude là-dessus, hein, Mathieu Novak.
C'était effectivement la première hypothèse, parce que le 1er janvier, on a vu que les premiers cas venaient tous de vendeurs de ce marché. Alors, c'est un marché aux poissons, mais on trouve aussi divers animaux. Et ce marché a été fermé, mais aujourd'hui, il y a un doute, parce qu'on se rend compte, en remontant les choses, que les tout premiers cas, peut-être, sont antérieurs encore aux cas de ce marché. Et donc, il aurait pu avoir une origine différente. Peut-être que le marché est en fait une infection secondaire. Ça reste obscur pour le moment.
En tout cas, aujourd'hui, ce virus, il est bien adapté à l'homme. Il a plus besoin de sources animales pour se développer et du coup il y a cette transmission entre les hommes. Alors ce qu'on en sait aussi, c'est pas mal de choses parce que les Chinois ont séquencé ce virus et contrairement à l'épisode du SRAS, ils ont tout de suite partagé cette information avec d'autres centres de virologie.
Donc ça veut dire qu'on a le génome du virus.
Exactement. Et ce séquençage a d'ailleurs été renouvelé par l'Institut Pasteur à partir des cas qui sont arrivés en France. Plus intéressant encore, l'Institut Pasteur a isolé ce virus. Ça veut dire qu'on a réussi à partir des cellules qu'il avait infectées, si vous voulez, à l'extraire et à le multiplier. Donc maintenant, on sait à quoi il ressemble.
Et ça vient tout juste d'être annoncé.
Exactement.
Mais alors, c'est dans cet ordre-là. On a d'abord séquencé le génome et ensuite réussi à l'isoler.
Tout à fait. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que à partir de ces deux informations, on va pouvoir développer un vaccin. C'est d'ailleurs ce qui a commencé. L'Institut Pasteur a annoncé hier avoir trois vaccins en phase 1 qui vont sûrement déboucher sur un essai clinique. Alors évidemment, il faudra 8 mois avant ce premier essai clinique. Et ils disent un vrai produit, un vrai vaccin pour se prémunir de ce virus d'ici 20 mois. D'ici là, sauf d'ailleurs s'ils sont doublés par d'autres laboratoires, parce que partout un peu dans le monde, on y travaille, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Chine, bien bien sûr, en Russie.
Et certains laboratoires ont même annoncé des délais étonnamment courts. Hein, certains
oui, mais c'est vrai qu'il faut se souvenir que pour Zika, par exemple, en 7 mois, il y a eu un vaccin mis au point. Donc il se peut que, encore une fois, le délai de 20 mois qui est aujourd'hui annoncé par l'Institut Pasteur soit raccourci.
Mathieu Novak.
Mais il faut se rappeler que le SRAS ou le MERS, à ce jour, on n'a pas de vaccin non plus. Donc c'est des virus qui peuvent disparaître d'eux-mêmes et on est sur une temporalité là pour le virus qui n'est pas celle de la dynamique de l'épidémie. Là, on voit chaque jour, on a une nouvelle annonce, on suit les choses et le virus, le vaccin, on est sur plusieurs mois.
Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces virus, le SRAS, le MERS, qui nous ont inquiétés, qui ont aussi un peu déclenché un vent de panique? Aujourd'hui, ils ont complètement disparu?
Alors ils ont disparu naturellement, sans doute ils existent toujours, on n'est pas du tout à l'abri. D'ailleurs, le MERS est réapparu cette année, enfin fin 2019. Ils peuvent réapparaître, parce que comme le disait Sophie tout à l'heure, on a le réservoir naturel de la chauve-souris, qui est un animal qui héberge beaucoup de ce type de virus et qui ne tombe pas malade. Et après, par un autre animal, généralement, ça peut repasser à l'homme. Les coronavirus, de façon générale, parce qu'il y en a beaucoup, on est très souvent infecté en hiver, ça donne un rhume, une gastro par des coronavirus, c'est des virus qui sont saisonniers. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, les deux premiers grandes craintes qu'on a eues avec les premiers coronavirus, le SRAS et le MERS, ils ont finalement réussi à disparaître tout seuls, grâce à des mesures de confinement, essentiellement.
Et Mathieu, qu'est-ce qu'il reste à comprendre, à savoir sur ce coronavirus qui nous occupe aujourd'hui?
On commence à avoir une bonne idée générale de ce à quoi il ressemble, mais il y a quand même beaucoup de questions, et notamment de questions de comment il infecte l'humain, qui sont encore très très débattues. Par exemple, comment ça se transmet? Ça se transmet par des petites gouttelettes, mais plus ou moins grosses. Alors les toutes petites, on appelle ça des aérosols, et les plus grosses, c'est des plus grosses gouttelettes. Donc c'est des gouttelettes qu'on émet quand on tousse ou quand on éternue. Savoir quel type de transmission, ça va être nécessaire pour savoir quel type de protection il faut mettre, quel type de masque il faut mettre. Donc là, c'est pas encore très clair. Après, il y a une question très très importante pour la dynamique de l'épidémie, c'est ce que les chercheurs appellent le R0. Le R0, c'est le nombre de personnes que va infecter un individu malade. S'il en infecte juste une personne, l'épidémie reste constante. Si c'est moins de 1, elle va s'éteindre toute seule. Et si c'est une maladie très contagieuse, donc on sera au-dessus de 1, là, ça peut être... L'exemple extrême, c'est la rougeole, c'est entre 12 et 15 personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Là, les premières évaluations, c'est entre... Il y a plusieurs études, mais entre 1,5 et 5,5. Ça veut dire que une personne va en moyenne contaminer entre une personne et demie et 5-6 personnes.
Et ça change tout.
Ça change tout.
Si on est à 1,5 de personnes, une personne en moyenne et demie contaminée par malade, ou si à chaque fois qu'une personne est atteinte, elle en contamine 5 autres, ça va se propager.
La dynamique est très très différente et il peut y avoir aussi quelques individus qui, pour une raison inconnue, on voit ça, on appelle ça en anglais les super spreaders, qui contamine énormément de personnes sans qu'on la sache pourquoi. Alors, il y a un autre facteur qui peut énormément changer la dynamique, c'est la durée d'incubation. Alors, on pensait au début qu'elle était entre 1 et 14 jours, on a l'air de s'orienter là, d'après les derniers résultats, sur 5 jours. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il semblerait qu'on puisse transmettre la maladie avant de déclarer les symptômes, donc durant cette période de contamination. Alors là, ça change tout, parce que les méthodes d'isolement, ça marche bien si vous isolez les gens quand ils commencent à devenir contagieux. Mais s'ils sont contagieux avant que vous les isoliez, la maladie continue de progresser. Donc là aussi, il faut qu'on continue.
Sophie.
Et dans les inconnus, il y a le fait que très peu d'enfants sont statistiquement touchés. On ne sait pas non plus pourquoi.
Ouais. Plus de personnes âgées, alors?
Alors oui, ça c'est les premiers résultats. A priori, c'est surtout des gens de plus de 60 ans qui ont, pour la plupart, des maladies chroniques par ailleurs. Mais il y a une étude qui est tombée là hier et qui, sur la centaine de premiers cas en Chine, qui dit que l'âge moyen des décès sur les 99 premiers malades est de 55,5 ans. Alors ça, c'est très troublant, parce que pour avoir une moyenne à 55 ans, ça veut dire qu'il y aurait quand même des cas jeunes, sans doute fragiles, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Les étrangers exfiltrent leurs ressortissants, les mettent en quarantaine, 14 jours, hein, alors 14 jours, parce que justement, on ne sait pas exactement combien de temps dure l'incubation. Ces mesures sont-elles adaptées, ou est-ce qu'on en fait trop ou pas assez?
Pour le moment, on a une seule solution, c'est de confiner les gens, en espérant qu'ils n'ont pas transmis la maladie avant. Tant qu'on n'a pas de traitement, il n'y a pas de traitement, c'est bien ça qu'il faut voir. On va tester les antiviraux, mais les antiviraux, il faut les donner au tout début. Donc c'est vraiment la méthode, si on veut que l'épidémie s'éteigne d'elle-même, c'est la seule méthode.
Avec les données dont on dispose, quels scénarios sont envisageables pour la suite?
Comme on le disait tout à l'heure, si le R0, donc le nombre de personnes qui sont infectées par un seul malade, est faible, l'épidémie peut s'éteindre toute seule, surtout que c'est une épidémie, a priori, d'un virus saisonnier. Mais sinon, on peut être aussi... Ce qu'on redoute, c'est que l'épidémie s'étende très vite, que le virus mute et devienne plus mortel. Et là, on se souvient que si on part sur un scénario de type grippe espagnole, c'est des dizaines de millions de morts.
Ce qui change considérablement au XXIe siècle, c'est quand même le nombre de voyages. village d'échange. La Terre est devenue un village. Et vous voyez bien que là, il y a énormément de pays qui, simultanément, voient arriver leur premier cas.
Pour terminer, sur ce sujet, est-ce que les médias, les autorités en font trop? Est-ce qu'on cède à la panique ou pas?
On a eu quoi? On a eu 10 000 cas et 200 morts en le premier mois. Alors pendant ce temps-là, on sait que la grippe, tous les ans, elle fait 10 000 morts par an en France, entre 300 et 650 000 la grippe saisonnière. Donc effectivement, on peut se dire, bon là, c'est la panique, on stigmatise un pays. Mais le risque, c'est que on a connu déjà des grandes pandémies de par le passé. On sait que ça réapparaîtra parce que c'est une maladie nouvelle, c'est-à-dire une maladie pour laquelle personne n'a de défense. C'est ça dont on a peur.
Sophie. Et surtout, l'OMS a un peu contribué à cet effet panique en déclarant que c'était effectivement mondial. Mais elle s'est appuyée, pour dire cela, sur le fait que certains pays ont un système de santé beaucoup moins développé et des moyens de lutte qui sont bien inférieurs. Et si la pandémie devenait mondiale, c'est pas encore, on n'utilise pas encore ce mot-là, hein, pandémie, mais si elle le devenait, les pays riches ou en capacité d'aider les autres, comme ça a été le cas par exemple pour Ebola, seraient évidemment beaucoup moins armés pour faire face à une épidémie chez eux et à aider aussi d'autres continent.
Alors on reste vigilant et si nécessaire on reviendra sur le sujet bien sûr. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Sophie, une collision évitée de peu en orbite.
À ma droite, un télescope vieux de 37 ans. À ma gauche, un satellite expérimental américain de 53 ans. Les deux hors service et qui errent dans l'espace. Et effectivement, mercredi, on a frôlé le crash, selon l'armée américaine. Chaque engin volait sur une orbite opposée à 54 000 km par heure. On avait même calculé le point de collision. Et d'ailleurs, il s'est trouvé des gens pour observer au-dessus de Pittsburgh à 23h30 s'il n'y aurait pas un flash lumineux. Eh bien non, à l'heure dites, il ne s'est rien passé, ouf, le danger était passé, pas de pluie de débris, car vous le savez, c'est ça, la crainte numéro une, c'est que des milliers de petits morceaux, trop petits d'ailleurs, pour pouvoir être attirés par la gravité terrestre et donc revenir chez nous, et pour être surtout détectés, se baladent dans l'espace, constituant un danger délétère pour des satellites actifs. Aujourd'hui, ces tout petits morceaux inférieurs à 10 cm, on ne les catalogue pas très bien, on ne sait pas très bien où ils sont. Et à 900 km d'altitude où aurait pu se produire la collision, il y a beaucoup de satellites dont nous dépendons aujourd'hui, vous le savez, pour la météo, pour les communications, pour le guidage.
En tout cas, le drame a été évité. Mathieu Novak, on vient d'obtenir la première estimation de la pêche illégale dans l'océan Austral grâce à des oiseaux.
Oui, grâce à des albatros, des chercheurs du centre d'études biologiques de Chizé en Nouvelle-Aquitaine qu'on doit ça. Ils ont révélé qu'un tiers des bateaux de pêche dans l'océan Austral seraient là de façon illégale. Alors comment ils sont servis des oiseaux? Cet oiseau emblématique de la région peut parcourir jusqu'à 20 000 km en 3 jours. Ça en fait un sérieux allié pour nous pour explorer un territoire vaste de 47 millions de kilomètres carrés. En plus, autre avantage, c'est que c'est un animal curieux. Il aime bien s'approcher des bateaux, souvent attirés par les appâts pour la pêche. D'où l'idée des chercheurs, si on leur mettait des petits détecteurs pour essayer de trouver ces bateaux qui font de la pêche illégale. Alors comment on différencie un bateau qui fait de la pêche illégale? Ils ont normalement un bateau de pêche, doit émettre en permanence un signal qui dit qui il est. Ceux qui ont quelque chose à se reprocher ont tendance à couper ce signal, mais ils conservent un signal radar pour éviter les collisions entre deux bateaux. Et ce signal radar, là, lui, est capté par les albatros, qui par un système d'émission envoient les infos directement chez les chercheurs qui voient en temps réel là où il y a un signal radar mais pas d'identification. Les gens sont sans doute là de façon illégale.
À la une de Sciences et Avenir, Mathieu Novak.
Les dernières recherches sur le mal de dos et les façons de le soigner.
Ah oui, ça peut être bien utile. Merci à tous les deux, Mathieu Novak et Sophie Bécherel, et à très bientôt. Dans une poignée de minutes, nous aurons le plaisir de recevoir le paléo-anthropologue Pascal Pic. Avec lui, nous allons revenir sur la grande histoire de l'humanité et nous allons nous intéresser au futur de notre espèce.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son cours et le cours de ce jour. Et le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quittée. des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour suit son cours et le maître d'y respirer, au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville est souvenir. En vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée chante un autre avenir. L'amour suis son cours.
C'était Où je vis de Jean-Louis Aubert. Après le flash, on s'intéresse au passé et au futur de notre espèce Homo sapiens avec le paléoanthropologue Pascal Pic. À tout de suite.